on voyageait en Europe en 1505. Et imaginez que vous étiez là, dans la rue, et un jeune homme vous approchez. Et il est intelligent et il est plein d'enthousiasme parce qu'il est en route, en ville, pour ses études. Il veut devenir juriste. Mais tout à coup, il y a un orage, il y a les éclairs, le tonnerre, et ce homme, ce jeune homme, il est vraiment, vraiment effrayant. Il a beaucoup de peur de cet orage. Et donc, il cherche quelque chose qui peut le cacher. Et il trouve un grand rocher, et sous l'abri de ce rocher, il se cache. Il est tellement effrayant. Et il dit et il crie, Sainte-Anne, Sainte-Anne, aide-moi, aide-moi. Ce n'est pas le lieu d'aujourd'hui. Mais il y a 500 ans, l'Europe était pleine de superstitions. Et ce jeune homme vivait avec une mentalité qu'il y avait les mauvais esprits et les diables lui-même qui a créé des choses comme cet orage pour effrayer et pour tuer tout le monde. Cet jeune homme s'appelait Martin Luther, qui est devenu le grand réformateur. Et aujourd'hui, nous allons examiner comment Martin Luther et les autres réformateurs ont lutté contre la superstition. Parce que pendant la Réformation, la Réforme, et après elle, les croyances superstitieuses ont été diminuées beaucoup en Europe. Remarquez certaines choses par rapport à l'expérience de Martin Luther. Premièrement, il avait peur de cet orage. Pourquoi? Parce qu'il croyait que cet orage a été créé par le diable lui-même. Pourquoi? Parce que le diable voulait le tuer. Martin Luther, comme tous les Européens, assistait aux églises le dimanche, mais ce n'est pas comme les églises que nous connaissons aujourd'hui. C'était une expérience tellement différente. Dans les églises, dans cette époque-là, le culte était en latin et une minorité pouvait le comprendre. Le latin, c'était le langue pour être éduqué, mais pas beaucoup de monde a reçu une éducation comme cela. Et donc, Martin Luther et le reste du monde en Europe vont à l'église, le culte était en latin, il n'est pas une prédication, il n'est pas une lecture de la parole, et la seule chose importante, c'est l'enlèvement du pain. Et le prêtre enlève le pain, et il prononce certaines paroles en latin, et après, c'est tout. L'assemblée a quitté le culte. Et pour cette raison, beaucoup de monde a peur des choses. L'Église n'était pas là pour les aider. Et les choses le monde avait peur le plus, c'était l'éternité. Parce que l'Église a enseigné qu'après le mort, il y a le jugement de Dieu et Dieu va compter vos péchés. Et donc, nous avons Diable ici, et Dieu, c'est là, Dieu compte tous les péchés du Diable. Il y en a beaucoup. Et après cela, pour payer pour les péchés, Diable, désolé, Diable, Jahre bas au purgatoire. Et en purgatoire, il souffre pour payer pour les péchés. Si Jahre a fait beaucoup de bonnes œuvres pendant sa vie, les bonnes œuvres peuvent payer un peu pour les péchés. Et donc, il est motivé de faire les bonnes œuvres, d'aller à l'église, pour diminuer la période qu'il doit rester au purgatoire. Et donc, tout le monde avait peur de tuer quand il était jeune. Parce que si un jeune homme comme Martin Luther tue, il n'a pas l'opportunité de faire les bonnes œuvres pour diminuer la période au purgatoire. Et pour cette raison, Martin Luther a cru que Satan a créé l'orage pour le tuer afin d'empêcher Martin Luther de faire les bonnes œuvres pour aller plus directement au paradis. Après l'orage, Martin Luther est devenu moine. Et il a étudié les écritures et il a fait un pèlerinage à Rome. Il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Mais toujours, il avait peur du diable et il avait peur de la mort et du jugement après. Et il n'était pas seul. Tout le monde, dans cette époque, avait peur des mauvais esprits et ils avaient peur de la mort. Et une chose intéressante de cette histoire, c'est que Martin Luther a crié à Saint-Anne. Saint-Anne, beaucoup de monde dans cette époque a cru, était la mère de Marie, la mère de Jésus. Et il a crié pas à Dieu pour sa délivrance, mais à Saint-Anne pour sa délivrance. Et il n'était pas encore seul. Beaucoup de monde, pendant cette époque, a cherché les moyens pour soulager les craintes et les peurs. Et donc, à l'église, il y avait le croix en bois, et ça, c'est un bois sacré, et tout le monde voulait le toucher pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de sorcières. Il y a beaucoup d'autres choses superstitieuses que tout le monde a exploité pour soulager leur crainte. Aujourd'hui, l'Europe est complètement différente que cela. Oui, la superstition existe, mais ce n'est pas une crainte de la majorité. Et c'était la réforme, le travail de Luther et des autres qui ont transformé l'Europe d'un continent avec beaucoup de superstitions à un continent qui a trouvé la paix et la liberté en Christ. Et aujourd'hui, nous allons examiner comment les réformateurs ont achevé, ont réussi à cette transformation. Parce que nous voudrions le voir ici au Sénégal, n'est-ce pas? Nous voudrions voir que le collègue, le camarade, le membre de la famille trouve la vraie paix en Christ. Et au commencement, j'inviterai que dans petits groupes autour de vous, vous pouvez discuter quelles sont les craintes que les Sénégalais connaissent. Les craintes spirituelles. Quelles sont les craintes spirituelles que les Sénégalais connaissent? Et quelles sont les aides que les Sénégalais exploitent pour trouver un soulagement de ces craintes. Et donc les craintes et les aides. Donc en petit groupe, vous avez 3-4 minutes de discuter les craintes et les aides que nous trouvons ici au Sénégal. Thank you.
plus savoir c'est les chrétiens non sénégalais ou les chrétiens
sénégalais. Non, les sénégalais en général, donc les non chrétiens.
C'est pour les sénégalais en général. Et c'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour les sénégalais en général. Quelle est la crainte qu'ils connaissent? Quelle est l'aide qu'ils affrontent? Merci. Est-ce qu'il y a un groupe partagé? Quelles sont les craintes que les Sénégalais connaissent? Un groupe? Oui, merci.
Oui, on a dit la crainte des fétiches. Par rapport aux fétiches, si tu n'es pas chrétien, on te dit si tu ne fais pas ça, les fétiches vont te faire.
Okay, merci. Est-ce qu'il y a des autres craintes que les Sénégalais connaissent?
Oui.
Les Sénégalais craignent aussi les sorciers. Le mot qui les dit. Les Sénégalais, ils disent la galle de oui. Ils disent la galle de oui.
Thank you.
qui sont tous les Sénégalais. On a été les Sénégalais, surtout les
Sénégalais. Donc, il existe beaucoup de craintes, oui, et on cherche les moyens pour les soulager. On cherche les personnes ou les amulettes pour protéger. Et c'était comme les lieux de Martin Luther en 1505. Mais, grâce à la réforme, comme j'ai dit, l'Église et l'Europe ont été transformées. Et nous allons examiner comment les réformateurs l'ont fait. Et si vous tournez aux pages 13, les réformateurs ont trouvé la solution dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a changé leur mentalité. Et quand leur mentalité a été changée, leur vie a été changée. Et en général, les réformateurs ont compris quatre choses par rapport à la succession, aux craintes et aux solutions. Premièrement, ils ont compris que, oui, il existe une guerre entre les forces mauvaises, spirituelles, et Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante dans le monde. J'ai un petit diagramme. Et les réformateurs ont compris que le monde est dans une certaine mesure sous le contrôle du diable, des esprits mauvais, des péchés, de la mort. Oui, ils ont dit que Dieu est le créateur et Dieu est souverain, mais comme nous avons examiné ce matin avec notre titre, l'humanité a rejoint la rébellion de Satan contre Dieu. Et donc, dans une certaine mesure, spirituellement, nous sommes sous le contrôle des mauvais esprits. Et dans notre monde, nous faisons beaucoup d'efforts pour se transformer notre monde. Dans le domaine politique, dans notre société, avec les nouvelles idées économiques. Et ça, c'est important, c'est une bonne activité. Mais pour le réformateur, ce n'est pas l'activité la plus importante. L'activité la plus importante, c'était d'accepter Dieu et d'avoir foi en Jésus. Parce que, à ce moment-là, on appartient au royaume de Dieu. Et on quitte le royaume des ténèbres et le royaume du Satan. Et donc, si l'activité la plus importante, c'est la guerre entre Dieu et les forces mauvaises, on doit avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le royaume de Dieu avance par la proclamation de la parole de Dieu. Et donc les réformateurs ont dédié leur vie à cette proclamation. Ils ont écrit beaucoup, ils ont prêché beaucoup, ils ont formé les autres pour prêcher l'évangile. Parce que dans l'évangile, nous trouvons le soulagement de la crainte spirituelle. Nous trouvons que Dieu est le créateur et il contrôle toutes choses. Et donc, nous n'avons pas besoin de craindre les mauvaises forces spirituelles. J'ai commencé avec l'histoire de Martin Luther, et une fois, après qu'il a déclenché la réforme,
sa vie a été menacée et il a été coincé dans une châtelle pour sa protection. Et là-bas, une soirée, il avait une vision du diable. Et il avait peur et il a cherché autour de lui pour quelque chose à jeter à cette vision. Et il a trouvé un pot d'encre. Et il a enlevé le pot d'encre et il l'a jeté sur la vision du diable. Et après, il a compris que c'était comment nous vaincre Satan. C'est pas la parole de Dieu qui était écrite. Et donc, Luther a écrit beaucoup de tracts, beaucoup de livres, il a prêché beaucoup pour proclamer la parole, pour vaincre Satan et son royaume. Nous avons une parole de Luther. Il dit, à ces pages 13, numéro 2, avec cette parole, c'est-à-dire la Bible, vous êtes riche et rien ne vous manque, car elle est la vie, la vérité, la lumière, la paix, la justice, le salut, la joie, la liberté, la sagesse, la vertu, la grâce, la gloire et la félicité sont mes yeux. Est-ce que vous reconnaissez le privilège chaque dimanche de donner à vos membres de vos assemblées la parole de Dieu qui est la vie, la vérité, la lumière, la paix, la justice, le salut, la joie, la liberté, la sagesse, la vertu, la grâce, la gloire et la félicité. Beaucoup de nos membres toujours craignent les choses imprévues, les activités des mauvais esprits et beaucoup d'amour l'Église vraiment craignent les activités des mauvais esprits et nous avons la parole qui est la lumière, la joie, la vie. Et donc nous avons l'âme que Dieu nous donne pour vaincre Satan et les craintes de lui. Troisièmement, les réformateurs ont dit que la puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Donc, ils ont bien préparé leur prédication et ils ont prêché avec logique et avec passion, mais ils ont dépendu de Dieu. Et donc, ils ont prié beaucoup que Dieu accompagne la parole avec sa puissance. Et donc, j'ai une autre parole de Luther. Qu'est-ce que tu penses de cette parole? Il dit, le vin est fort, le vin est plus fort, les femmes sont plus encore, mais la vérité est plus forte que tout. C'est la parole de Dieu qui gagne les cœurs, et si le cœur est gagné, l'homme tout entier est gagné. Et donc, comme nous prêchons, chaque dimanche, quand nous proclamons la parole à un non-chrétien pendant la semaine, nous devons prier que Dieu gagne le cœur à sa parole. Ça, c'est la chose la plus importante, car par la parole, nous trouvons le soulagement de notre cœur et Dieu vainque Satan. La quatrième chose que les réformateurs ont enseigné par rapport à la guerre spirituelle, que c'était une guerre continuelle. La guerre continue jusqu'au retour du Christ. Et donc les réformateurs ont parlé de l'Église au terre, qui s'appelle l'Église militante, et l'église au repos, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts et ils se reposent avec Christ au ciel. Et l'église militante doit continuer le bataille, le combat, la guerre spirituelle. Il n'existe pas un moment ni une heure que l'église peut cesser ce combat jusqu'au retour de Christ. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a un temps entendu de penser à un jour je vais recevoir une victoire totale. Oui, c'est vrai, au ciel, après le mort, mais ici, chaque heure, je dois continuer la lutte spirituelle. Ou on peut penser, ah, un jour, je vais recevoir un pouvoir extraordinaire de Dieu qui me donner la liberté. Mais la Bible dit, oui, Dieu peut nous aider, et Dieu est avec nous, et il est possible de recevoir un pouvoir extraordinaire, mais même dans cette situation, la lutte continue jusqu'au retour du Christ. C'est la quatrième chose. La guerre spirituelle, c'est le plus important. Ce n'est pas la proclamation de la parole, mais ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas seulement notre création, c'est on doit invoquer par prière la puissance de Dieu pour gagner le cœur de chaque homme. Et cette guerre continue jusqu'au retour de Christ. Et les réformateurs ont enseigné ce passage et la mentalité de tout le monde a été changée. Après la mentalité a été changée, la vie a été changée. Et donc l'Église, pendant l'époque de la Réforme, est devenue un lieu où tout le monde pouvait venir pour écouter la parole de Dieu. Et dans la parole, ils ont trouvé le soulagement de leur crainte spirituelle. Et c'est par la parole et cette proclamation que les réformateurs ont réussi à changer l'Europe. Pour le reste de cet établi, je voudrais focaliser sur l'enseignement de Jean Calvin. Jean Calvin était un autre réformateur très bien connu. Il est né en 1509 et il a trouvé le Seigneur pendant ses études, quand il était jeune homme. Il a lu les Écritures et le Seigneur a ouvert ses yeux à la vérité. Il était français, mais à cette époque-là, il y avait la persécution contre Jean Calvin et les autres protestants. Et donc, il a quitté France et il est arrivé en Genève, en Suisse, et il a fait un ministère extraordinaire là-bas. Il approchait presque chaque matin. Il a écrit un commentaire sur chaque livre de la Bible, sauf l'Apocalypse. Et il a écrit un livre de la théologie systématique qui est 1500 pages. Il était vraiment extraordinaire. Et dans ses œuvres, surtout dans sa théologie systématique, il a discuté la guerre spirituelle et l'activité du diable et des mauvais esprits. Et premièrement, il a examiné Satan, sa nature et ses origines. Et il a dit que la Bible n'est pas claire comment Satan est devenu mauvais. Il suppose que l'idée que Satan était un ange qui s'est rebellé contre Dieu et certains autres l'a rejoint était la vérité, mais il n'était pas sûr que c'était ce que c'était clair, que ça c'était lui en scène. Mais il insiste qu'il n'existe pas deux pouvoirs dans l'univers. Dieu qui est bon et Satan qui est mal. Non, Calvin dit, Dieu est le créateur de toutes choses, y compris Satan et tous les mauvais esprits. Et donc, Dieu est le seul pouvoir. Tout le pouvoir appartient à lui. Après, il discute l'activité de Satan. Et comme nous avons entendu ce matin, il a dit que l'activité principale, c'est de mentir. Et donc, il dit, car il, Satan, oppose la vérité de Dieu par ses mensonges. Il cache la lumière par l'obscurité. Il fait garder les pensées des hommes d'hommes en erreur. Il provoque les haines, les contentions et les disputes, tout au bout qu'il renverse le royaume de Dieu et envoie l'humanité avec lui-même à la perdition. C'est intéressant, n'est-ce pas? Satan oppose la vérité. Luther, avant la réforme, a cru que Satan avait le pouvoir de créer des orages, de tuer les personnes. Beaucoup de Sénégalais pensent la même chose aujourd'hui. Mais l'activité principale, c'est de garder l'humanité dans l'obscurité. C'est notre expérience, n'est-ce pas? Nous parlons avec un Sénégalais qui ne croit pas en Christ. Il cite en évangile et il répond: ce ne fait rien pour moi. Pourquoi? Parce que Satan garde ses yeux en obscurité. C'est vraiment triste, mais c'est l'activité de Satan. C'est la principale activité de Satan. Après cela, il examine les activités des mauvais esprits. Et il dit que les mauvais esprits font les activités différentes vers les non-croyants et les croyants. Pour les non-croyants, Calvin dit que les mauvais esprits sont l'autorité immédiate du Satan. Ainsi, il veut accomplir sa volonté en les trompant par cachant la vérité d'eux. Cependant, ils sont sous le contrôle ultime de Dieu, qui les jugeront au dernier jour. Et donc, comme Satan, les mauvais esprits veulent cacher la vérité des non-croyants. Par rapport à l'activité des mauvais esprits vers les croyants, Calvin dit que les mauvais esprits peuvent oppresser les chrétiens, mais ils ne peuvent pas contrôler les chrétiens. Pourquoi il dit comme cela? Parce qu'il dit que la Bible insiste que dans les cœurs des chrétiens existe le Saint-Esprit. L'Esprit qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu. La vie qui est saint et pure. Et il n'est pas possible d'avoir dans mon cœur l'Esprit Saint et un esprit mauvais en même temps. Et donc, un esprit mauvais ne peut pas exorer un vrai chrétien. Cependant, un mauvais esprit peut oppresser un chrétien, peut tenter un chrétien. Et le but de cette activité, c'est de tenter quelqu'un d'abandonner la foi en Dieu. Et pour illustrer, il examine le passage de Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. C'est un passage très bien connu. Pour décrire son expérience, un jour, il avait une vision du paradis. Et en fait, il était là au paradis avec le Seigneur. C'était une expérience extraordinaire. Elle est tellement heureuse. Et après cela, pour dire, quand il est revenu au normal, dans le monde, Satan lui a donné une charge, une tentation, une épreuve dans son corps. Et pour a crié trois fois à Dieu pour la délivrance. Et Dieu a dit non, ma puissance est perfectionnée dans ta faiblesse. Et Calvin dit, c'est intéressant. Et elle nous enseigne trois choses. Premièrement, on peut recevoir une pression, une tentation, une difficulté du Satan. Mais Dieu le permet. Et donc il est possible que, en tant que pasteur, au temps de se santé, quelqu'un est vraiment oppressé par les mauvais esprits. Mais le mauvais esprit est là par la permission de Dieu. Dieu reste fidèle. Et Dieu reste en contrôle. Deuxièmement, l'intention de Satan, c'est de provoquer une crise de foi en Paul. Et Paul a crié trois fois, délivre-moi, aide-moi Dieu. Et l'intention des activités de Satan dans les assemblées, c'est de tenter tout le monde d'abandonner la foi. Mais, pour Paul, le contraire a été fait. Parce que Paul a pris de dépendre de Dieu de plus en plus. Il a appris une leçon très importante, que notre victoire sur Satan ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Et donc il a compris que sa force ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Et donc Dieu a déchiré les intentions de Satan parce que Paul a appris une bonne leçon. De dépendre de Dieu totalement. Et quand nous faisons le ministère pastoral pendant ceux qui sont oppressés par les esprits, le souci n'est pas de recommander beaucoup d'heures en prière ou une séance spéciale pour la délivrance, mais c'est juste de dire Dieu, tu es en contrôle. Et je mets ma confiance en toi. Et si ça c'est la seule leçon que je apprends, c'est une bonne leçon pour moi. Parce que Dieu est plus grand que Satan et ses projets. Il a quitté le champ, mais mon collègue Alex, je pense que beaucoup de vous le connaissent. Alex, une fois, il est entré dans une boutique à Chess. Et il a regardé en haut, et sous la porte de cette boutique, il y avait beaucoup de cuicui. Vous l'avez observé, cette expérience-ci. Et il a demandé au boutiquier, pourquoi tu as des cuicui là-bas? Et le boutiquier, il est un peu étonné, a tout bon, demandé une question comme cela. Mais il a répondu, ah, c'est pour la protection. Si un mauvais esprit entre à la boutique, les véhicules sont là pour la protection, pour les chercher. Pensez un moment. Imaginez que Satan lui-même a décidé d'entrer à cette boutique. Est-ce que Satan, quand il entre à la boutique, il regarde les véhicules, est-ce qu'il quitte rapidement? Est-ce qu'il a peur? Si Satan s'approche d'un chrétien, Et nous avons Dieu, le Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que Satan veut faire en lui disant « Je te parle de Dieu, il est plus puissant que toi, il est plus fort que toi, Satan. » Qu'est-ce que Satan doit faire? Il veut que toi se retiennes, parce qu'il a rencontré une force plus puissante que lui. Et ça, c'est la leçon que Calvin dit aux chrétiens. Dépendre de Dieu. Sois humble. Ne cherchez pas les autres moyens. Nous avons en Dieu la force plus puissante qui contrôle Satan. Et donc, marchez avec lui et dépendez de lui. Nous allons terminer là. Je voudrais juste en résumé souligner que nous avons commencé avant la Réformation avec une histoire de la crainte, l'histoire de Martin Luther pendant le orage, et nous terminons avec une nouvelle compréhension de Dieu. Et ça, c'est la chronologie de la Réformation. Dieu et l'Église étaient en crainte. Mais comme les réformateurs, par la grâce de Dieu, ont prêché la parole, beaucoup, beaucoup de monde ont trouvé la paix, ont trouvé le repos, ont trouvé la tranquillité en Jésus. Et nous voudrions voir cela pour notre pays, n'est-ce pas? Nous voudrions voir que la parole de Dieu dans le soulagement à beaucoup de monde. Parce que beaucoup de monde, aujourd'hui, même cette heure, visite les marabouts, craignent les mauvais esprits, achètent les griffes, sans succès. Parce que les craintes toujours restent. Et c'est seulement en Dieu et par sa parole que nous trouvons le soulagement. Alors, nous n'avons pas du temps, mais je voudrais chanter le grand hymne de Luther. Notre Dieu, c'est un don grand pas. Mais le temps, c'est épuisé. Mais peut-être on peut le chanter après le temps de prière.
Oui.
Oui, parce que c'est un hymne qui décrit, oui, les activités de Satan et les puissances de Dieu et les certitudes que nous avons en nous. Mais je vais terminer juste par un petit prière. Oui, notre Dieu, nous voulions voir dans ce pays, dans l'Afrique de l'Est, une transformation spirituelle. Et donc, nous prions que tu nous aides à proclamer la parole, pas avec notre puissance, mais avec ta puissance, afin que tout le monde, chaque dimanche, puisse entendre la liberté et la joie que nous avons en Christ. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Oui. Restez ici, notre groupe revient et nous allons passer 30 minutes en prière dans des petits groupes. Mais Georges va expliquer le prochain temps. Donc, attendez le reste.
Mais on va apparaître tout de suite.